11h25, on est de retour dans Trudeau Landry 25226. Si vous voulez nous rejoindre par messagerie texte, par téléphone, c'est le 1-877-670-9330. Dans les prochaines minutes, je veux pas qu'on donne le vertige, le tournis à nos auditeurs, mais quand même, c'est important de s'informer, d'éduquer un peu les gens sur, par exemple, ce sera quoi la situation financière du Québec dans les
dans
prochaines
le
années.
Ça va être dans,
là,
le
dans les prochaines années, parce que la semaine prochaine, le ministre des Finances, Éric Girard, va dévoiler son budget. Bien hâte de voir ce qu'il y aura à l'intérieur de ça.
As-tu vu les camions d'encre rouge qui s'en vont
En fait, c'est un pipeline.
C'est un pipeline. Ah, ça passe en dessous de la terre.
C'est un pipeline jusqu'au d'encre parlement. Rouge qui s'en va vers l'Assemblée nationale. Et il y a l'Institut du Québec qui dévoile aujourd'hui un exercice qu'ils ont fait de simulation pour essayer de voir la trajectoire des revenus, des dépenses du Québec pour les 5 prochaines années. On aime toujours ça, s'entretenir avec elle. C'est toujours bien intéressant. Mia Homsy, qui est la présidente et directrice générale de l'Institut du Québec. Bonjour, Mia.
Bonjour.
Alors, je disais, je veux pas donner le vertige aux gens, mais quand même, on va être lucide, on va être honnête. Lorsque vous faites des projections au niveau, par exemple, des revenus, de la perte de revenus de l'État québécois dans les 5 prochaines années, clairement, ce sera pas positif, là.
Non, ben c'est sûr, il y a deux éléments qu'on regarde, qu'on essaie de voir quel est l'impact de la crise sur les finances publiques. Il faut qu'on regarde comment les revenus de l'État sont affectés, parce que quand il y a une crise économique, qu'est-ce qui se passe? La croissance chute, donc les revenus aussi. Il y a moins de gens qui consomment, il y a moins de gens qui payent il y a des gens qui perdent leur emploi, ils peuvent pas payer, ils perdent leur emploi, donc pas d'impôts, moins de consommation, etc. Et ce qu'on oublie, c'est que l'effet de ça, il dure dans le temps. C'est que la reprise, ça prend du temps à nous ramener au niveau de revenus qu'on était avant souvent et encore plus loin de ce qui était prévu comme revenu avant la crise. Donc ça, c'est un élément. Puis l'autre chose qui se passe pendant les crises économiques, c'est que l'État doit intervenir. Le secteur privé est très affecté, donc l'État soutient les travailleurs, les entreprises, les gens qui perdent leur emploi. Et dans le cas, en ce moment, avec la COVID, ben, c'est une crise de santé publique en même temps, donc des dépenses importantes dans le système de santé. Ce que ça fait, c'est que les dépenses explosent en même temps que les revenus baissent. Ça crée un gros trou dans les finances publiques. Il y a un écart qui se crée entre les revenus et les dépenses. Puis ça, on le traîne pendant plusieurs années jusqu'à temps que soit que la croissance soit assez forte pour fermer cet écart-là, mais au Québec, on n'a pas des croissances assez fortes pour venir combler, dans le fond, les besoins puis les dépenses qui continuent d'augmenter. Alors souvent, ça prend une intervention de l'État. Puis je vais vous donner des ordres de grandeur là, sur 5 ans. Nous, ce qu'on évalue, c'est que la pandémie va avoir créé un choc, un trou dans les finances publiques de l'ordre de 36 milliards. 11 milliards en perte de revenus et 25 milliards en hausse de dépenses.
OK, un trou de 36 milliards, mais là, je les regarde aller, là, puis je vous donne quelques exemples comme ça. Puis tu sais, je comprends qu'on doit investir en santé, en éducation, mais tu sais, je les regarde aller avec les projets d'Internet haute vitesse partout en région. Hein, 400-500 millions de plus qu'on ajoute encore. Les projets de transport, entre autres, à Québec. Le tramway, 3 milliards. Là, ils vont annoncer le troisième lien, c'est on dirait qu'il, je sais pas s'il réalise, est-ce que c'est parce que les taux d'intérêt sont bas qu'ils se permettent de continuer à présenter des projets de dépenses? Qu'est-ce qui se passe là-dessus, là?
Ben, il y a deux choses. Souvent, les infrastructures, ça va être un peu le moyen privilégié par les gouvernements, là, de manière générale, là, partout sur la planète, pas juste au Québec, pour relancer l'économie. Cette fois-ci, je pense qu'il faut faire un peu attention parce que là, les nouvelles prévisions qu'on voit, c'est que l'économie va reprendre de façon très, très, très vigoureuse en 2021-22. Là, les nouveaux chiffres qui sortent de croissance par les banques là, au cours des derniers jours, c'est du 8-9% de croissance de PIB nominal, là, pas réel, celui qui inclut l'inflation. Mais ça veut dire que faut faire attention non plus de pas trop stimuler l'économie à court terme parce que ça aurait un effet qui est pas positif. Là, il faudrait que la banque monte ses taux, etc. Puis on défraie tout que le gouvernement a fait. Donc, il faut faire attention pour ça cette fois-ci. Mais vu que les taux sont très bas, il y a aussi quelque chose de positif à investir dans les infrastructures si on le fait quand même de façon graduelle. Là, tu sais, si on regarde ça sur 5-10 ans puis qu'on veut pas tout annoncer aujourd'hui puis faire trop de demandes, trop de pression sur notre secteur de la construction aussi qui est limité en ressources, là, les taux sont bas. Donc, on s'endette, puis l'impact sur ce qu'on paye en service de la dette pour financer notre dette sur les marchés, C'est vraiment faible. On le regarde dans le rapport, puis c'est assez surprenant. Moi, j'ai jamais vu ça, puis je suis les finances publiques depuis assez longtemps. Là, j'ai même coordonné des budgets, fait que je connais bien bien ces chiffres-là. Puis habituellement, quand tu t'endettes, ben ton service de la dette augmente assez rapidement, puis ta dette augmente. Le poids de ta dette augmente. Mais là, l'économie augmente encore plus vite que les taux augmentent, que notre service de la dette augmente à cause des taux. Fait qu'on s'endette pas vraiment plus. C'est assez stable. Donc, ça nous donne une marge de manœuvre. Mais moi, je veux vraiment être claire sur le fait que ça nous donne une bouffée d'air frais. On est correct à court terme, mais il faut quand même maintenir l'objectif de revenir à l'équilibre à un moment donné. Ouais. Faut pas abdiquer là-dessus.
Et on a l'impression souvent que, bon, dans les façons de retrouver l'équilibre budgétaire, ben il y a de couper les dépenses de l'État ou d'augmenter les revenus en taxes et en impôts, par exemple. Mais vous visez une autre problématique aussi. Non, que t'as pas, Jérôme. J'essaie d'arriver avec des solutions. Jérôme, il fait de la scare. Mais vous parlez aussi de la productivité défaillante au Québec. Comment ça vient avoir un impact sur notre économie et surtout, comment on pourrait remédier à cette problématique-là?
OK, ben ça, c'est, dans le fond, quand on regarde c'est quoi la croissance du Québec, là, il y a deux principales composantes qui font que l'économie grandit. Ce qu'on appelle le potentiel économique, là, qui vient faire, qui peut augmenter plus vite, c'est deux choses. Le nombre de personnes qui travaillent, la proportion des personnes qui travaillent et le nombre d'heures qu'elles travaillent la productivité. C'est vraiment ces deux composantes-là mises ensemble. Là, quand on additionne ces deux éléments-là, ça nous donne exactement notre croissance économique. Fait qu'on a comme deux leviers pour s'enrichir collectivement.
Mais c'est intéressant, ça. Est-ce qu'on est dans une situation, vous parlez de productivité d'heures de travail, est-ce qu'on est encore dans une situation? Tout le monde se souvient, il y a quelques années, quand Lucien Bouchard avait dit que les Québécois ne travaillaient pas assez. Est-ce qu'on est encore dans ce genre de situation-là actuellement au Québec?
Ben, nous, on l'a regardé en comparaison à l'Ontario, puis il y avait quelques heures de moins de travailler que l'Ontario. Mais ça dépend toujours comment les questions sont posées, qui pose les questions, qu'est-ce que les gens disent, est-ce qu'ils donnent leurs résultats d'heures officielles, est-ce qu'ils disent les heures supplémentaires qu'ils font. Mais de manière générale, on travaille quelques heures de moins que les Ontariens par semaine. Mais on travaille, notre taux d'emploi, ça veut dire le nombre de personnes qui travaillent par rapport à la population qui est en âge de travailler, est pas mal bon au Québec, surtout pour les femmes. Là, les Québécoises sont parmi celles qui travaillent le plus sur la planète, là, après un ou deux pays scandinaves. Donc, on a quand même un bon taux d'emploi à cause des systèmes de garderie et autres, qui fait en sorte qu'on a peu de levier sur ça, surtout que notre population vieillit, puis on peut pas compter sur une hausse du bassin de travailleurs potentiels. Donc, la démographie, ça limite notre croissance. Donc, notre seul véritable levier, c'est la productivité. Puis la productivité, ça a comme une connotation. Des gens, ils se voient comme travailler comme des fous, là, à pitonner sur leur téléphone, puis comme pas avoir une minute pour eux. Mais c'est vraiment pas c'est ça. La productivité, c'est vraiment si t'as des bons outils, si l'entreprise pour laquelle on travaille s'automatise, on a une formation adéquate qui nous permet de travailler, disons, de mettre moins de temps pour avoir le même résultat. C'est ça, la productivité. Puis ça, c'est des investissements pour aider les entreprises à prendre le virage numérique bien plus rapidement, puis aider les travailleurs aussi. Fait que ça vient cocher plusieurs cases. Ça augmente les salaires, ça augmente les revenus de l'État, et ça fait qu'on peut se payer des meilleurs services sans augmenter le fardeau fiscal. Fait que c'est sur ça qu'il faut travailler, mais c'est pas facile. On n'a pas super bien réussi.
Et ce point-là, je le trouve fondamental, Mia, parce que lorsqu'on parle de productivité déficiente, automatiquement, on va avoir le réflexe de viser le nombre d'heures travaillées, la paresse des Québécois, bon, la façon que des gens avaient interprété, entre autres, les propos de Lucien Bouchard, mais l'aspect automatisation, technologie, jusqu'à quel point ça vient être un facteur important dans notre retard au Québec?
Ben c'est un élément important du retard, c'est l'investissement des entreprises dans tout ce qui est machinerie, matériel, outils technologiques. C'est surtout là-dessus qu'on a un retard parce que c'est difficile d'accroître il y a deux déterminants là, de la productivité en gros, c'est l'équipement avec lequel on travaille, les investissements des entreprises dans ces équipements-là et la formation des travailleurs qui doit être adéquate pour être capable d'utiliser ce matériel-là. Alors c'est là-dedans là, qu'on doit trouver une façon de prendre le virage plus rapidement. Puis la pandémie a accéléré ce besoin-là. Alors, soit on va tirer encore plus de la patte si on prend pas le virage, ou soit c'est comme une opportunité d'embarquer dedans, parce que le télétravail, les achats en ligne, c'est toutes des choses qui changent les façons de faire, là.
Yomzy, toujours très, très, très intéressant. On aura probablement, assurément, l'occasion de se reparler dans la foulée de la présentation du budget du ministre des Finances la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Merci.
Salut.
Bonne
Merci.
Journée.
Merci. Yomzy, qui est PDG de l'Institut du Québec. Et ça, là, Jérôme, la productivité,
oui.
là.
Oui.
C'est quelque chose de fondamental. Et on n'en parle tellement pas assez. Et je sais qu'il y a des gens qui risquent de me dire, bah, encore le discours antisyndical. Puis, mais dans le retard qu'on a au niveau de la productivité, le déficit au niveau de, des technologies, de l'automatisation, ouais. c'est vraiment important. Mm-hmm. C'est important parce qu'à un moment donné, les retards accumulés, comme Yomzy parlait, font en sorte que les coûts de production sont plus élevés qu'ailleurs, où ils absorbent, par exemple, les investissements sur la machinerie sur de nombreuses années, mais ça augmente leur efficacité. Ajoute à ça, bon, tous les programmes sociaux, les taxes, et tout. Ce que ça fait, c'est qu'entre autres, il y a des entreprises qui sont plus intéressées à venir au Québec ou qui vont s'en aller ailleurs qu'au Québec. Donc, d'un, on est moins attractif, on est moins intéressant pour des entreprises qui veulent venir travailler ici, et les entreprises ici sont moins performantes en plus.
Ben oui, c'est ça.
Mais, tu sais, quand je dis le facteur syndical là-dedans, c'est quand tu parles à une entreprise, une usine qui a 1500 employés, que tu as comme projet d'amener des investissements de millions de dollars pour avoir une certaine automatisation, mais que ça va couper un pourcentage d'emplois. Là, évidemment, avec les syndicats, ça se braque, on empêche ça. Mais on oublie de penser que peut-être que dans certaines entreprises, il y a des emplois qui seront perdus, mais qu'en étant plus efficace, en dynamisant l'économie, il y a d'autres entreprises qui vont venir, il y a d'autres emplois qui vont se créer.
À un moment donné, il faut être réaliste, Joe. C'est que moi, j'ai de la compassion. Quelqu'un qui perd, mettons, une job dans le domaine industriel, tu sais, une job d'usine, tu sais, il y a longtemps, ben, tu sais, nos parents, grands-parents, tu sais, il y avait plus de jobs dans le secteur industriel. Usine, ça peut être une usine de pâte et papier, ça peut être un autre type d'usine également, puis toujours triste quand quelqu'un perd sa job là-dedans, là. C'est moi, j'ai de la compassion pour ça, mais en même temps, faut être réaliste. Les jobs d'avenir, c'est quoi? C'est dans ceux qui vont créer l'automatisation.
C'est les programmeurs.
C'est ça. Dans ceux qui vont créer de la technologie, qui vont développer la technologie, là. C'est ça, la réalité. Puis c'est une réalité, des fois, qui est dure à encaisser parce que c'est des emplois, des fois, il faut que tu te spécialises, il faut que tu ailles à l'école, puis tout ça. Puis il y a quelque chose d'un peu tragique là-dedans, Joe, là. Parce que, comme je te dis, moi, j'ai de la compassion pour quelqu'un qui perd son emploi dans un secteur moins spécialisé. Mais la réalité, c'est ça. On avance, la technologie progresse. Puis les jobs d'avenir, ils sont là-dedans. Oui, il va y avoir de la place pour des jobs manuels encore, mais il va y avoir beaucoup de jobs dans l'économie. Si vos enfants se demandent dans quoi étudier, ben tabarnouche, c'est dans les technos, dans le développement des technologies plus que dans l'application elle-même.
Là. Exact. Donc, je rappelle, 36 milliards de pertes au cours des 5 prochaines années si on prend en compte les pertes de revenus et les hausses de dépenses. 25 milliards de hausses de dépenses, 11 milliards de pertes de revenus, ce qui nous mènerait à un 36 milliards de pertes. Ben, hâte de voir comment le ministre Girard entend résorber cette situation-là, le déficit et les sacrifices qui risquent d'être exigés des Québécois. Il est 11h presque 39. On va faire une pause. Trudeau-Landry.
Trudeau-Landry, Jérôme Landry, Jonathan Trudeau. On prend une petite pause.